Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Pour commencer, quand tu as un entrepreneur qui se sent débordé, assistante virtuelle, c'est la première étape, la première marche à monter.
L'OBM va faire plus que juste exécuter des tâches ou respecter des process. Elle va venir prendre des responsabilités.
Avoir un OBM, c'est aussi accepter de redevenir ambitieux et accepter aussi que quelqu'un vous aide là-dessus pour vraiment aller matcher des résultats que vous n'avez pas encore trouvés.
Il va faire gagner du temps, il va enlever toute la charge mentale du dirigeant, ce qui, lui, va lui permettre justement de prendre cette hauteur, d'avoir cette vue d'avion pour mieux structurer et s'adapter finalement à sa stratégie.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Cet épisode concerne deux types de personnes, les dirigeants, les entrepreneurs débordés qui auraient bien besoin d'un coup de pouce et ceux qui voudraient les aider. Très heureux de vous retrouver dans l'épisode 10 de la saison 3 du podcast des indépendants sur BFM Business, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler des assistantes virtuelles et des OBM, deux activités qui explosent tant la demande est importante. On va tout vous expliquer avec quatre super invités.
Damien Grangien, créateur de la plateforme collaborative Plateia. La plateforme permet aux assistants virtuels et aux online business managers de collaborer facilement avec leurs clients, les dirigeants. Deuxième invité, Marielle Cuirassier, online business manager freelance. Elle accompagne les entreprises dans leur développement en étant bras droit d'entrepreneur. Marielle forme aussi ceux qui, comme elle, souhaitent devenir online business manager. Troisième invité, Margot Cunego, fondatrice de Booston Biz avec plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Un succès qu'elle doit notamment au soutien d'une online business manager à ses côtés depuis des années. Enfin, Betty Ango, fondatrice de l'agence ClickTempo qui met à disposition des entrepreneurs surchargés, des assistants externalisés pour les tâches du quotidien.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors j'aimerais qu'on commence par dire ce qu'est une assistante virtuelle et ce qu'est un OBM, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je l'ai dit en introduction, c'est deux activités qui explosent, ce ne sont pas les mêmes activités alors qu'on les lit parfois. Pour commencer, Betty, c'est quoi une assistante virtuelle? Je dis une assistante virtuelle parce qu'il y a surtout des assistantes virtuelles.
Une assistante, en fait, ça va être celle qui va être dans les coulisses de l'entreprise et qui va gérer vraiment la partie opérationnelle du back-office.
On va être tout à fait transparent. Juste avant cette émission, je t'ai dit, est-ce que ce n'est pas un peu comme une secrétaire? Et tu m'as dit, oula, surtout pas.
Non, effectivement, on n'est plus à l'âge de pierre. L'assistante aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui va être pivot dans l'entreprise et qui a un rôle clé auprès du dirigeant.
Mais pourtant, les assistantes virtuelles font aussi des tâches répétitives, des tâches un peu chronophages.
Oui, ça arrive effectivement qu'on exécute des tâches parce que c'est justement le point important de pouvoir alléger la charge mentale du dirigeant. Donc ces tâches-là reviennent très souvent. Par contre, il y a autre chose derrière qui va être aussi un peu du pilotage.
Margot, toi, tu es une indépendante qui te développe et tu me disais, pour me développer, je fais beaucoup appel finalement à des profils externalisés parce que assistante virtuelle, c'est ça, ce sont des profils, ce sont des supports en fait finalement externalisés.
Complètement. Moi, j'ai fait appel beaucoup à des profils freelance, du coup, des indépendants aussi, et notamment beaucoup d'assistantes et une OBM principalement qui m'a énormément aidé à développer mon business. Donc, je pense qu'on pourrait en reparler, mais c'est un facteur clé dans la croissance d'une entreprise aujourd'hui de pouvoir faire appel à des profils comme ça. Et voilà, moi, c'est principalement mon OBM qui m'a aidé à exploser, mais je pense que assistante virtuelle, c'est aussi un métier qui est indispensable aujourd'hui.
Donc, une assistante virtuelle, Betty, c'est un support pour le dirigeant.
Oui, en fait, ça va être effectivement son bras droit qui va être là dans l'opérationnel. Donc, elle va prendre en charge toutes les tâches professionnelles, même personnelles de temps en temps, et elle va organiser et on va dire coordonner toutes les fonctions support de l'entreprise.
Et la facturation va se faire en fonction du nombre de tâches, en fonction du temps passé, etc. On rappelle, ce ne sont pas des salariés, ce sont des indépendants.
Oui, c'est des indépendants. Par contre, après, la facturation va dépendre de l'assistante, si elle a une expertise spécifique, si elle tarife à l'heure. Il y a aussi des tarifs au forfait, avec l'évolution des besoins du dirigeant, de son entreprise. Donc, c'est assez aléatoire sur la facturation.
En choisissant ce thème d'émission, je pensais faire une émission sur les assistantes virtuelles et j'ai découvert les OBM. Je ne connaissais même pas. Alors, quelle est la différence avec les OBM? Là, c'est un peu... C'est quoi? C'est un stade au-dessus, Marielle?
Moi, j'aime bien expliquer ça hyper simplement. Quand on délègue à une assistante virtuelle, je pense qu'on délègue vraiment des tâches spécifiques. Alors que quand on commence à faire appel à des OBM ou même à des COO, parce que vous allez trouver beaucoup de termes pour parler du même métier, on va déléguer des responsabilités et même des décisions. Je ne sais pas si ça aide à clarifier.
Il y a un côté bras droit du dirigeant.
Bah c'est ça, exactement, c'est un vrai côté bras droit. L'OBM va faire plus que juste exécuter des tâches ou respecter des process. Elle va venir prendre des responsabilités. Par exemple, elle va coordonner des projets, elle va faire du management, elle va même prendre des décisions
à la place du dirigeant. Elle peut avoir des objectifs.
Oui, elle a des objectifs, elle peut contribuer à la stratégie. Elle a vraiment un objectif de développement. Elle n'est pas juste en train d'effectuer des tâches, mais par exemple, moi, quand j'arrive dans une entreprise en tant qu'online business manager, je vais autant vouloir la réussite du business et son développement que le dirigeant lui-même.
Alors déjà, il y a une différence avec assistante virtuelle qui est une fonction plus support.
Oui.
Alors qu'OBM, on est plus sur une fonction stratégique.
En fait, c'est ça, il y a deux bras droits, on va dire ça comme ça. Tu confirmeras, Marielle, mais en fait, il y a le bras droit vraiment pur opérationnel et qui va optimiser, coordonner. Et il y a le bras droit structurel qui va plus être, comme elle disait, sur le développement, la stratégie et le fait d'aider dans la prise de décision.
Damien, est-ce qu'on commence forcément par l'assistante virtuelle et ensuite on va vers l'OBM ?
Je pense pas forcément. C'est vraiment deux choses très différentes. On peut être assistant virtuel et vouloir naturellement évoluer vers des choses de plus stratégiques, vouloir accompagner le dirigeant dans sa réflexion, notamment réflexion stratégie opérationnelle, parce que la stratégie fondamentale de l'entreprise sur est-ce que je fais de l'acquisition de telle ou telle boîte, je ne crois pas qu'on en parle non plus. Mais sur la stratégie opérationnelle, bien sûr. Et là, on veut vouloir finalement entrer dans l'intimité du dirigeant, comprendre ses clés de lecture, comprendre les vraies douleurs de l'entreprise. Et là, l'OBM, c'est parfait. On peut vouloir ça, mais ça nécessite une montée en compétences extrêmement intéressante. Et là, différents organismes peuvent se proposer, d'accord ? Mais on peut vouloir aussi rester simplement, venir d'un autre milieu, avoir été dirigeant, par exemple, dans une autre boîte, avoir être entrepreneur et vouloir dire je veux devenir OBM, je veux accompagner d'autres dirigeants à bien faire leur job et à gagner en productivité.
Ce sujet me parle particulièrement parce que moi je suis chef d'entreprise et mon entreprise se développe et parfois j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de prendre de la hauteur. Sur de l'opérationnel effectivement, et je me suis dit il faut déléguer certaines tâches, mais aussi sur la stratégie de l'entreprise. Et je comprends que ce soit quelque chose qui se démocratise, quelque chose de plus en plus fréquent que de se dire ok, je vais prendre de la hauteur avec quelqu'un. Et toi Margot, oui, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tu valorises beaucoup ton équipe qui est externalisée.
Complètement. Mon équipe est externalisée et moi typiquement mon OBM aujourd'hui qui s'appelle Méline, elle a commencé en tant qu'assistante virtuelle, donc c'est-à-dire qu'au début j'étais toute seule et j'avais besoin d'aide sur des tâches répétitives que je faisais régulièrement. Et en fait au fur et à mesure de mon évolution et de son évolution, on a évolué, elle est grave montée en compétences et de fil en aiguille, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble, donc on a vraiment évolué ensemble. Et aujourd'hui c'est elle qui gère chacun des pôles de mon entreprise, c'est elle qui fait le management, c'est elle qui fait la gestion de projet, c'est elle qui fait l'assignation des tâches, c'est elle qui vérifie que chacun fait ce qu'il a à faire, c'est elle qui s'assure que les objectifs sont atteints. Et c'est même aujourd'hui et depuis je pense quelques mois, elle qui prend des décisions à ma place, qui prend des décisions même financières, qui dit ok ce devis là c'est ok, celui-là non. Et elle m'enlève une charge qui est immense, en temps de travail mais aussi en pression, et elle est capable, je pourrais je pense disparaître maintenant 3 mois, 6 mois, voire même 1 an, que mon business tournerait je pense de la même manière.
Ouais, donc c'est prévoir la suite et c'est avoir un associé sans lui donner de part.
C'est ça, bah oui. Après on peut se, enfin moi je sais qu'on est en train de réfléchir à un système au pourcentage sur certaines périodes de lancement, parce que justement maintenant on a énormément évolué, on était sur un fixe pendant 3 ans et pour l'investir encore plus on réfléchit pourquoi pas à une sorte de pourcentage pour certaines périodes de lancement, mais de base c'est pas comme ça qu'on s'était mis d'accord quoi.
Marielle, tu disais oui.
Oui, j'acquiesce.
Sur le fait que c'est un associé à qui tu donnes pas de part.
Très souvent, par exemple, là, on parle d'associé. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en tant qu'associé à temps partagé. Et quand je regarde, par exemple, les annonces d'associés à temps partagé, c'est clairement des tâches que des OBM peuvent faire. Donc, ça me faisait penser à ça, par exemple.
Est-ce qu'on commence d'abord par une assistante virtuelle pour ensuite aller vers un OBM, Betty ?
Je pense qu'il n'y a pas de règle, parce que ça va dépendre du niveau en fait, de maturité de l'entreprise et du dirigeant. Parce que déjà, sur la délégation, tu vas avoir plusieurs étapes. Il y a des niveaux de délégation, celui qui n'a encore pas commencé, qui a besoin de prendre confiance dans cette délégation, et puis tu as celui qui va être beaucoup plus avancé et qui lui aura déjà des process, etc., et là qui va avoir besoin de structurer, et on va plus être sur la partie OBM.
Avant d'aller jusqu'à l'OBM, c'est vrai que moi j'ai le sentiment quand même que l'assistante virtuelle c'est quand même un basique. C'est-à-dire aujourd'hui, pour se soulager du temps et pour retrouver un peu de temps pour soi, pour respirer un peu, pour arrêter d'avoir la tête dans le guidon, c'est quand même la base. Margot,
ouais. Dans la position du chef d'entreprise, c'est peut-être même plus simple, je sais pas ce que vous en pensez, mais de commencer à déléguer à une assistante, parce que t'as moins, enfin en fait c'est plus des tâches que tu fais déjà et que tu sais expliquer et qui sont potentiellement répétitives ou du moins qui sont facilement délégables, alors que quand c'est une OBM t'as beaucoup plus de besoin de la former, d'apprendre à la connaître, de vraiment créer une équipe, d'apprendre à réfléchir ensemble. Ça me prend beaucoup plus de temps à avoir une équipe gagnante avec une OBM, et c'est d'autant plus efficace. Mais je pense que pour commencer, quand t'as un entrepreneur qui se sent débordé, assistante virtuelle c'est la première étape, la première marche à monter quoi.
Oui, puis l'OBM, j'imagine Damien, ça suggère aussi quand même une implication, enfin il faut quand même du temps pour que l'OBM s'approprie l'entreprise, l'entrepreneur.
En réalité pour moi il y a 2 critères très importants, c'est d'une part la capacité à diagnostiquer le besoin, et ça en fait tout le monde ne sait pas le faire, et l'OBM a cette qualité de diagnostic. Je suis dirigeant, j'ai une douleur ou un objectif extrêmement clair, je vais formuler ma douleur à l'OBM, l'OBM va rediagnostiquer l'ensemble des éléments en fonction des ressources de l'entreprise et de sa réalité structurelle, et va être capable de mettre en place un plan d'action et des objectifs copilotés avec le dirigeant. Et ça, c'est exceptionnel.
Ouais.
Un niveau de maturité, de compréhension des grilles de lecture de l'entreprise qui est très élevé, très développé. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est la capacité du dirigeant à déléguer concrètement.
Ce qui n'est pas évident, je pense, quand tu es dans la position d'un entrepreneur qui est débordé, c'est déjà tellement difficile de réussir à faire tout ce que tu as à faire et de t'organiser. Et que le fait d'ajouter, entre guillemets, une charge, de devoir former quelqu'un et de devoir expliquer tout à quelqu'un, c'est un enjeu qui est hyper difficile. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé directement avec une assistante virtuelle et ça m'a délégué des tâches concrètes et ça m'a enlevé X heures de travail par semaine que j'ai pu utiliser à, du coup, mieux déléguer, mieux former et ensuite mieux me développer.
Ouais, mais finalement, c'est comme le recrutement. C'est-à-dire que quand on recrute, il y a un moment donné, y a tout le processus pour trouver le bon profil, il y a tout le processus de formation, mais en fait, c'est pour être mieux après. C'est, quoi, hein, c'est accepter cette idée. Betty, tu voulais réagir?
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de prise de hauteur. Ce que disait Margot, c'est que l'assistante, en fait, l'assistant d'ailleurs, parce qu'on en a quand même des garçons, va venir en fait déblayer le terrain. Il va faire gagner du temps, il va enlever toute la charge mentale du dirigeant, ce qui lui va lui permettre justement de prendre cette hauteur, d'avoir cette vue d'avion pour mieux structurer et s'adapter finalement à sa stratégie. Et c'est là, après, qu'on va intervenir sur la partie OBM.
Damien?
Et d'ailleurs, pour préciser, souvent, certains OBM, quand il y a vraiment une délégation totale et une prise de confiance totale avec le dirigeant, et je crois que c'est nécessaire aussi ce lien de confiance avec le dirigeant, l'OBM va manager aussi des assistants virtuels pour voir un peu la différence entre les deux. En général, les OBM qui commencent à avoir une vraie grosse responsabilité vont avoir 2, 3, 5 assistants potentiellement. J'ai ce business-là, moi, aux États-Unis, où j'ai un OBM qui délègue à d'autres assistants.
Oui, c'est pas avant-après, c'est complémentaire, en fait.
Ouais, c'est ça.
Les deux travaillent ensemble, finalement.
D'ailleurs, il y a des assistantes qui refusent d'évoluer en tant qu'OBM parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est juste deux métiers différents.
Marielle, toi qui accompagnes, justement, qui forme les OBM...
Oui.
C'est un niveau de responsabilité quand même assez conséquent.
C'est très challengeant, mais justement, les profils qui sont sur des postes d'OBM aiment ça. Elles aiment le challenge et à la différence d'une assistante virtuelle qui va peut-être avoir beaucoup de clients, l'OBM n'a pas nécessité d'avoir énormément de clients parce que son degré d'implication dans les boîtes qu'elle intègre fait que des fois, ça peut prendre carrément un temps plein. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une cliente depuis 2 ans et je n'avais pas d'autres clients à côté parce que l'investissement était tel que je ne ressentais pas le besoin de m'éparpiller plus que ça. Donc, c'est vraiment deux métiers différents.
Alors concrètement, moi, en tant que chef d'entreprise, je viens de voir et je te dis, voilà Marielle, j'aimerais passer un second step, mais j'y arrive pas seule. En gros, c'est l'idée.
Typiquement, on peut prendre le cas de Margot, parce que moi, j'aime trop. Margot, elle avait tous les signes d'un besoin d'une OBM. Donc, j'observais et je disais même à mes clientes de projet OBM, elle, suivez ce qu'elle fait, elle aura bientôt besoin d'une OBM, si vous voulez peut-être vous proposer. Mmh. Parce que pourquoi? Je voyais que tu commençais à recruter, tu commençais à avoir des difficultés de management, tu étais en pleine croissance, tu enchaînais les challenges, tu avais besoin de formation. Et là, c'est là qu'une OBM peut arriver pour finalement... Comme si on devait avoir un organigramme, l'OBM serait, on aurait le CEO en haut, c'est entre ça. Guillemets,
oui.
Et elle vient faire ton pont entre le CEO et l'équipe.
Ça veut dire en fait ne plus être tout seul,
oui.
Et ça veut dire aussi se développer, ça veut dire être plus ambitieux, sans devoir trouver un associé, sans embaucher, en externalisant vraiment un bras droit, quoi.
C'est un vrai bras droit, je pense, et effectivement, moi par exemple, là on est... une quinzaine dans mon entreprise, c'est Méline qui fait le lien avec chaque personne. Moi, je n'ai plus besoin de leur parler, je leur parle, voilà, mais j'ai plus besoin de suivre à la lettre ce qu'ils font, c'est elle qui le fait. S'il y a un problème, c'est elle qui le gère. Si on onboard une personne, c'est elle qui fait le recrutement, c'est elle qui l'a choisi. Je valide plus que les dernières décisions.
Combien de temps ça t'a pris pour intégrer cette Méline?
2 ans et demi. Deux ans et demi à travailler en étroite collaboration. Donc au départ, c'est des tâches vraiment assistantes virtuelles.
Il faut avoir une vraie connexion humaine aussi.
Oui, complètement. Moi, par exemple, on en parlait un petit peu juste avant, c'est que je suis très. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai la vision, etc. Mais en termes de structure, je suis très mauvaise, je ne sais pas m'organiser, je ne sais pas...
Vraiment.
Et du coup, elle, c'est l'inverse, c'est un cerveau, son cerveau, il est rangé, ouais. Et du coup, l'association, elle est hyper importante, elle est complémentaire de fou.
OBM, moi, je l'ai découvert en préparant cette émission, donc ce n'est pas encore, franchement, très développé en France. Damien, tu parlais des États-Unis, j'imagine que là-bas, ils ont un temps d'avance sur le sujet.
Complètement, ils ont un temps d'avance sur pas mal de choses. Aux États-Unis, il y a beaucoup de dirigeants, que ce soit solopreneurs ou même des dirigeants qui ont des vraies structures plus développées, je veux dire, avec des petites TPE, PME, qui ont ce phénomène d'assistant virtuel d'un côté, OBM a chapeauté les assistants et d'autres fonctions de l'entreprise pour atteindre des objectifs ambitieux, et les fameux coachs aussi qu'on entend peu, mais qui sont aussi là-bas très présents. Et effectivement, c'est très développé. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais un business dans l'immobilier. Très clairement, rapidement, j'avais pas que ça à faire. J'avais un temps plein. À l'époque, j'étais en CDI, temps plein. Je pouvais pas manager tous les problèmes du quotidien. Donc, j'ai voulu trouver ce bras droit, justement, à l'époque. Et le terme d'aubaine n'existait pas en France. Et clairement, ça fait 8 ans déjà, 9 ans. Et donc, j'ai voulu trouver quelqu'un. Et ça s'est très, très bien passé. Pour le coup, fit immédiat, grille de lecture partagée, objectif partagé. Et moi, j'avais juste à, effectivement, valider de temps en temps les grosses opérations, les grosses validations. Okay. Mais après, tout est géré par la personne.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que je passe à côté de quelque chose quand même. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, évidemment, qui nous écoutent et qui écoutent le podcast des indépendants. Est-ce que vous avez le sentiment que parmi tous ces auditeurs, il y en a probablement beaucoup, comme beaucoup d'entrepreneurs en France, qui passent à côté du bénéfice d'un OBM ou même d'une assistante virtuelle? Est-ce que ça explose, mais est-ce que c'est encore trop méconnu?
Moi, je pense que déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ces problématiques-là, mais qui, c'est pas tant que c'est pas assez connu. Je pense que ça, dans notre monde, en tout cas, je pense que ça commence à être bien développé. Il faut aussi sensibiliser à quel moment est-ce qu'il faut commencer à déléguer. Quand t'es un entrepreneur, que t'es tout seul, bah, que t'es débordé,
à quel moment... Mais tu t'habitues.
Oui, tu t'habitues et je pense que t'as aussi cette envie de te dire bah, moi je prends tout sur moi, je le ferai mieux, je sais mieux le faire, ouais, que les autres, donc je le garde pour moi. Sauf qu'au bout d'un moment, tu freines ta croissance et tu te rends pas compte que si juste t'enlèves 6 heures par semaine ou même 2 heures par semaine de travail, et ben tu peux faire x10, x5, j'en sais rien, sur ta croissance.
Ça c'est un déclic à avoir, effectivement, ouais. Et c'est aussi de comprendre, bah non, tu n'es pas indispensable sur certaines tâches, on peut te remplacer. Aussi.
D'ailleurs, ça m'arrive très souvent que quand je suis recrutée en tant qu'OBM, parce que je fais à la fois des missions longues et parfois des missions ponctuelles, que le dirigeant me dise qu'il a dû se faire coacher pour me recruter. C'est-à-dire qu'il a dû vraiment travailler sur lui-même pour se dire, déjà, c'est un investissement, parce que quand on recrute une OBM, ça a un certain coût. Donc du coup, c'est un challenge financier pour l'entrepreneur de se dire, OK, je vais investir dans cette ressource humaine, mais je n'ai pas forcément la vision de est-ce que ça va me rapporter vraiment de l'argent. Donc il y en a pas mal qui font un vrai travail sur eux-mêmes pour finalement briser leur plafond de verre.
Je pense qu'il y a aussi un petit problème d'ego aussi. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai pas honte de le dire, mais c'était aussi ça. Quand t'es entrepreneur, tu t'as construit un truc de zéro, t'en es hyper fier. Et je pense qu'on a un peu cette fierté de se dire bah, moi, je me suis fait tout seul, moi, je réussis tout seul. Oui. Et il faut réussir à se dire bah, en fait, je suis pas indispensable, comme tu disais. Je peux donner des tâches à d'autres personnes et j'ai pas moins de mérite parce que je délègue.
Oui, alors l'avantage, c'est que comme il est externalisé, on peut continuer à dire qu'on fait son truc tout seul.
Oui.
La personne n'est pas salariée, donc.
Bien sûr, mais typiquement, moi, j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai monté mon business toute seule.
Et c'est très
alors que j'ai pas de salarié, mais...
Damien ?
Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est qu'il y a une mentalité française aussi qu'il faut un petit peu moduler et appréhender. Là, je reviens des États-Unis, là-bas, c'est 10x, 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 donc la mentalité x10. Et en fait, dès lors que tu veux croître vite en hypercroissance, je parle des startups, je suis une startup, je sais, je vois bien, j'entends ça tous les jours, on doit aller vite, on doit croître, et ben, il faut penser à ce type d'investissement. Tu parlais d'investissement plutôt que de parler de coût, c'est ça, c'est un investissement. On choisit d'investir dans une ressource qui va faire un effet de levier. Comme en immobilier, on met 10 000 euros pour acheter un appart de 400 000, ben là, c'est pareil. C'est un effet de levier incroyable parce que la personne est potentiellement plus compétente. Il faut espérer qu'elle soit plus compétente que nous. C'est ça,
mieux,
un bon recrutement.
C'est ça aussi le challenge.
Après, c'est à nous aussi de bien la former et de bien la faire évoluer.
Et toi, tu l'as trouvé tout de suite, Méline ?
Alors oui, bah moi, c'est marrant, j'avais fait un recrutement, j'avais fait une story et elle voulait tellement être celle que je choisis qu'elle était au ski, sur une piste de ski. Elle m'a fait une vieille vidéo comme ça, genre choisis-moi. Et en fait, on a eu un feeling déjà de base humain, on a bien rigolé. Et après, genre, je me suis dit, bon, bah, on fait un petit test. Encore une fois, on prend des petites tâches faciles à faire, vraiment pas compliquées.
Du coloriage.
Oui, voilà. non, pas du tout. Mais des trucs, disons, faciles à déléguer, pas de la stratégie encore, pas de la réflexion. Et en fait, de fil en aiguille, c'était tellement incroyable que naturellement, elle a évolué.
Ouais, donc bon feeling dès le départ, et c'est pas forcément le cas. Est-ce que vous trouvez facilement le bon OBM ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on trouve facilement la bonne assistante virtuelle ? Parce qu'on se connaît un petit peu, Betty, on a pas mal échangé avant l'émission, et tu me disais, il y a vraiment, vraiment besoin aussi sur cette question d'assistante virtuelle d'avoir le bon profil. Est-ce que c'est facile de trouver le bon profil ?
Il y a plusieurs choses, en fait. Pour rejoindre ce que disaient Damien et Margot, il y a un lot de croyances autour de cette délégation qui est incroyable. Je peux tout faire tout seul, c'est bon, je vais gérer. Sauf que bah, quand tu commences à travailler à 23h, c'est que tu ne gères pas du tout. Et quand tu vas commencer à recruter la bonne personne, il faut que ça matche en valeur, il faut que ça matche aussi sur la vision, parce qu'à un moment donné, c'est quand même la prolongation de ton cerveau, on disait tout à l'heure. Et il faut que ce soit vraiment axé sur l'humain d'abord, je pense, avant même les compétences, parce que les compétences, ça s'acquiert comme on veut. Après, les soft skills, c'est autre chose.
Oui, c'est vrai que la relation humaine... Et sur les OBM aussi, c'est compliqué de trouver le bon OBM. C'est quoi? C'est un contrat au mois
Oui, c'est-à-dire que normalement, c'est ça l'avantage du freelancing. C'est que... Bon, alors moi, je mets des petites clauses quand même avec un délai pour pas me retrouver non plus à la rue du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est un contrat qu'on peut dissoudre assez rapidement. Donc l'enjeu est quand même là parce qu'il y a du temps qui va être investi. On fait pas son choix non plus rapidement juste parce que c'est quelqu'un d'externe et qu'on peut s'en séparer rapidement.
Ouais.
Mais je trouve que c'est quand même challengeant pour un CEO de se dire je vais faire confiance à une personnes que je ne connais pas. Mmh. Et moi, je sais que toutes celles qui font appel à moi, elles ont scrollé tout mon Instagram, elles connaissent toutes mes valeurs, etc. Enfin, elles ne sont pas arrivées pour me démarcher juste comme ça, en fait. Elles ont vraiment essayé de voir s'il y allait avoir une
vraie
entente.
Connexion. Quand tu dis ceux qui t'ont démarché, c'est...
Bah, c'est que les CEO me contactent, en fait, pour être leur OBM.
Okay.
C'est pour ça que je pense que les choses commencent à changer, parce qu'ils commencent à se rendre compte que...
C'est pour ça que je voulais faire cette émission, parce que je pense qu'on est sur un vrai sujet, il y a une vraie évolution.
Oui.
Et ça peut être un, comment on dit, un game changer en, dans l'entrepreneuriat, plutôt que de rester isolé et de normaliser et cette absence de prise de hauteur aussi.
Oui, il y a un certain lâcher-prise à avoir aussi.
Ouais.
C'est vrai que cette question du lâcher-prise est quand même super importante et c'est loin d'être évident.
Bah, c'est surtout que quand on arrive en tant qu'OBM, moi par exemple, quand il y a un lancement, je vais être la dernière, je vais mettre terminé sur toutes les tâches, je vais vérifier tout ce qui a été fait. Et ça veut dire que l'entrepreneur doit être assez confiant pour se dire « Ok, mon OBM a tout vérifié, je lui fais confiance et moi, je me concentre sur délivrer mes masterclass. » Et en fait, c'est un degré de confiance, mais qui est énorme. Mais c'est une confiance qui se gagne.
C'est une confiance qui se gagne, ouais, bien sûr.
Moi, quand je forme...
Et ça se gagne vite si ça se passe bien et que ça libère du temps.
Exactement.
Et que d'un coup, on se dit oh, « Mais ça fait combien de temps que je fais ça ?» Alors que je pourrais, depuis si longtemps, m'en soulager, quoi.
Et tu sens l'évolution, en plus, chez le dirigeant qui va de plus en plus déléguer. Nous, ça nous est arrivé où on est parti d'un constat où le dirigeant nous disait « c'est utopique, elle ne pourra jamais faire tout ce que je fais, etc. » En fait, elle a pris en charge des choses et des choses et des choses. Et à un moment donné, je suis arrivée devant lui en lui disant « on va faire ton suivi client ». Il m'a dit « mais prends rendez-vous avec mon assistante », qui était ma propre assistante, l'assistante de mon collectif. Quand on arrive à ce degré-là, on dit que le travail est bien fait.
Le travail est bien fait. Combien ça coûte ?
Combien ça
coûte, Margot ? Combien ça coûte, Méline ?
Alors, moi, en toute transparence, elle m'a coûté de plus en plus cher, évidemment, au fur et à mesure des années. Le premier forfait qu'on avait, je pense, c'était genre peut-être 600 euros par mois, un truc comme ça. Et aujourd'hui, elle est autour de 6 000, 7 000 euros par mois. Donc, c'est quand même beaucoup.
Voilà.
Sachant
facture,
que...
on rappelle.
Oui, mais bien sûr. Et surtout, ça varie d'un mois à l'autre. Et bon, le contrat peut se terminer à peu près n'importe quand. Mais on fait évoluer le forfait au fur et à mesure de, elle, son évolution dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un gros forfait, pas tant pour les heures travaillées, parce qu'elle a son business à elle aussi, mais plutôt sur l'argent qu'elle me permet de gagner à moi. Tu vois, enfin, c'est le levier que j'investis sur elle est tellement rentabilisé en termes de chiffre d'affaires que je peux me permettre ça, quoi.
Du coup, tu as commencé à 600, donc c'est intéressant. Oui. Ça veut dire qu'on peut commencer... Enfin, il y a des steps, quoi. On n'est pas obligé de s'engager sur des montants astronomiques au départ.
Ah oui, non. Et d'ailleurs, Marielle, je le conseille parce que, par exemple, vu que c'est un gros investissement, les filles que je forme, ça peut être bien aussi d'avoir un entrepreneur, de voir comment son entreprise évolue et de le rejoindre alors qu'il n'a pas encore explosé. C'est-à-dire que ça peut être une stratégie d'avoir un poste un peu OBM, un peu assistante, etc., et d'évoluer avec l'entrepreneur. Donc ça aussi, c'est possible. Mais des fois, l'entrepreneur a déjà explosé et il n'a personne autour de lui, ce qui m'est arrivé dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a une entrepreneuse, son assistante n'était pas intéressée pour évoluer. C'est possible aussi de ne pas avoir envie d'avancer. Donc dans ce cas-là, on est obligé de faire appel à quelqu'un du coup d'extérieur comme moi. On peut faire des petits forfaits, c'est-à-dire qu'on peut commencer par déléguer peut-être juste la gestion de projet. Ensuite, on délègue un autre périmètre. Donc, on peut aussi faire step by step, c'est-à-dire une OBM, mais qui n'est pas tout de suite dans le management, mais qui va faire les lancements. Ensuite, on voit qu'elle gère bien les lancements et du coup, on va lui déléguer le management. Ensuite, on va commencer à faire des brainstorming stratégiques. Donc, on peut imaginer une évolution.
Et ça, c'est important parce que du coup, c'est pas forcément hyper engageant au départ. Mmh. Et c'est pareil avec l'assistante virtuelle, Betty.
Ouais. J'aime bien donner une image, moi, de la construction d'une maison où tu passes la porte d'entrée avec un sujet et après, en fait, tu alimentes toute la maison. Donc, c'est-à-dire, tu as besoin d'un canapé, je vais te mettre un canapé là, tu as besoin d'un bureau, je te mets un bureau. Et en fait, au fur et à mesure, tu délègues des tâches et ils y prennent goût, hein, parce que c'est un vrai bénéfice. Et quand tu as la maison qui est potentiellement bien rangée, bien organisée, c'est là où tu passes le step suivant avec la stratégie, la croissance et où on va aller vraiment chercher du plus lourd, quoi.
Je voulais rebondir sur la rémunération. Donc, c'est super que tu sois transparente là-dessus parce que toutes les personnes qui veulent devenir OBM viennent me demander combien tu factures. J'aime bien parler en TGM puisque dans le milieu du freelancing, on parle, on tarife beaucoup à ça. Moi, pour toutes les débutantes, je leur dis, je leur donne un ordre d'idée, c'est 400 euros achetés la journée pour commencer en tant qu'OBM avec des compétences. Je ne parle pas d'une OBM qui fait de la
résultats derrière.
Moi, aujourd'hui, mon
j'imagine
TGM...
J'imagine que oui. Mais pour ceux qui nous écoutent, on se dit, ah oui, 400 euros jour...
Mais oui, parce qu'on délègue des responsabilités. On n'est plus sur de la délégation de tâches, on est sur la délégation de « je m'en occupe plus, en fait. Je regarde même plus ce qui est fait, la personne s'en occupe. » Donc, c'est là où la valeur de l'OBM monétaire, elle se décorrèle de juste le fait de faire des choses.
Damien.
Il y a deux choses très importantes. Déjà, il faut que le dirigeant comprenne sa propre valeur.
pour être capable de payer ce prix-là ou voire beaucoup plus. Mm-hmm. Si mon temps, moi, c'est 2000 euros, je suis prêt à payer 1000 parce que je vais vraiment économiser une journée entière de travail. Bon, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut comprendre la qualité que ça t'apporte, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur des sujets de type je vais créer une formation ou ce genre de choses. Ça, c'est bien, c'est utile, mais il y a des sujets vraiment très complexes qui peuvent être gérés par les EBM. Je pense à tous les sujets de la TPE ou de l'entrepreneur indépendant ou de la PME qui peuvent être aussi gérés par des EBM. La partie RSE, CSRD, c'est un sujet qui va être fondamental. La partie cybersécurité, ça va concerner des réglementations qui vont arriver pour tout le monde.
Oui, c'est une forme de consulting.
En fait, il y a une partie, effectivement, consulting. Être capable de diagnostiquer l'existant, comprendre les ressources de l'entreprise et apporter une recommandation. Et quand la recommandation est claire pour le dirigeant et que lui, il veut y aller, ok, bah, je mets tout en place, c'est ok, c'est réglé.
Vous mettez à disposition des entreprises et des entrepreneurs des OBM. Comment vous les sélectionnez? C'est quoi? C'est un casting? C'est des entretiens? Comment ça se passe?
Je fais des apports d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent travailler avec moi, mais comme j'ai plus de place, je place les OBM que je forme. Donc, ce n'est pas trop en format d'agence. Je pense que là, tu vas plutôt mieux répondre que moi, Damien.
Damien?
Alors, typiquement, nous, on a un processus en place qui est assez clair, notamment pour l'OBM, qui n'est pas le même processus que pour les assistants ou que pour les office managers. Pour les OBM, d'abord, il y a la chose classique, donc on va faire du sourcing qualitatif. Donc, on va regarder LinkedIn, les expériences précédentes, par quoi la personne est passée.
Ouais, du recrutement, quoi, comme
recrutement. Du recrutement classique. Ouais. Et ensuite, par contre, on a toute une étape de vérification par des soft skills. Donc là, c'est par un échange. Moi, j'ai été coach de dirigeant, donc je peux me permettre d'analyser les soft skills. Donc là, on voit comment la personne réagit sous pression. On la met en situation sur des situations réelles qui lui arriveront demain. Comment tu réfléchis? Comment tu es capable de faire ça ou ça? Et ensuite, sur la partie hard skills, on a fait appel à un cabinet externe qui certifie des gens comme PricewaterhouseCoopers, comme Microsoft, qui vont tamponner la compétence de la personne selon des évaluations prédéfinies. Et une fois que c'est réglé, on prend une décision en équipe de savoir si oui ou non on garde la personne. Et là, après, on est dans le pool de compétences et ça ne suffit pas parce qu'il y a enfin un fit humain après avec la personne.
Ouais.
Donc, on suggère la personne aux dirigeants.
Donc, il y a un process très exigeant.
Ah oui, il faut. Ah, c'est un job fondamental.
Pour ce type de rôle, c'est juste indispensable. C'est, parce qu'il y a du relationnel, il y a des enjeux trop importants pour...
Des responsabilités conséquentes. Et c'est vrai que derrière, pour l'entrepreneur qui a décidé de le faire, il faut mieux éviter la déception, quoi.
Moi, je prends très au sérieux ce métier. Et c'est pour ça que j'ai commencé à former des OBM, parce qu'il y avait trop de déceptions autour de moi. C'est-à-dire que j'avais des entrepreneurs qui venaient, qui recrutaient des OBM et qui finalement étaient déçus, qui me disaient « j'ai payé tant ». Et en fait, est-ce que c'est normal que mon OBM ne prenne pas ses responsabilités? Est-ce que c'est normal que mon OBM soit pas autonome? Ils venaient me poser des questions aussi par rapport à ça. Et comme on peut pas se démultiplier, moi j'aimerais trop être l'OBM de tous les entrepreneurs dont je suis fan, sauf que c'est pas possible. Et je trouve qu'il y a un vrai effort de transmission, parce que moi je suis pas devenue OBM en étant assistante, mais c'est parce que j'étais directrice des opérations, coordinatrice qualité en fait en tant que salariée. J'ai aussi mon propre business en ligne, donc j'avais en fait tout le background qui me permettait en fait de bien maîtriser en fait les ficelles de ce métier là mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai créé Projet OBM, pour transmettre finalement aussi ce côté, ces compétences techniques, cette attitude, cette posture d'OBM qui n'y a pas, c'est pas forcément naturel, quoi.
Et d'ailleurs, il faut qu'on s'adresse aussi à ceux qui veulent devenir assistant virtuel ou OBM. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, Marielle, c'est cette question de l'organisation. Quand tu dis par rapport à ton ancien poste, etc., il y a la notion de responsabilité, mais il y a le fait aussi d'être extrêmement structuré. Premièrement, quelles sont les qualités d'une assistante virtuelle, Betty?
L'assistante, en fait, qui va être idéale, ça va être l'assistante qui va savoir anticiper les besoins, qui va vraiment être au cœur des coulisses du dirigeant et qui va savoir ce qu'il boit, ce qu'il mange, comment il dort, si c'est
son équilibre. Il y a un côté un peu « je m'efface ». C'est quelqu'un qui va plutôt être d'un profil discret, qui ne va pas chercher forcément la lumière.
Ouais. Je les appelle les pépites de l'ombre, parce qu'effectivement, en fait, c'est, c'est tout ce qui va se passer en fait, à l'intérieur pour que justement le dirigeant puisse briller et faire exploser l'extérieur. Donc, en fait, c'est ça.
On n'est pas sur des profils qui cherchent la lumière, on a plutôt ce côté, cette forme de discrétion, cette forme d'être vraiment dans le soutien, d'aider, avec forme d'empathie.
Complètement, c'est ça. C'est vraiment en interne. Et c'est de mettre en fait tout en œuvre pour que le dirigeant, lui, se sente bien, soit serein et qu'il ait un équilibre en fait parfait entre ce qui va se passer à l'intérieur et ce qui va se passer à l'extérieur.
Il y a tellement d'entrepreneurs qui nous écoutent qui gagneraient à avoir une assistante virtuelle. Et en plus, c'est pour le coup, alors les OBM, on a dit, c'est quand même un coût quand même assez conséquent, mais l'assistante virtuelle, ça reste quand même clairement abordable, Betty.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va dépendre où en est le dirigeant, son niveau de délégation, sa maturité par rapport à ça. Il y a des dirigeants qui sont assez frileux aussi de par les mauvaises expériences dont Marielle parlait tout à l'heure. Et il y a des fois, c'est difficile pour eux de lâcher justement cette partie-là. Mais nous, on est là en accompagnement. C'est pour ça que je dis toujours, en fait, oui, on exécute des choses, mais on accompagne aussi le dirigeant pour le rendre plus serein vis-à-vis de ça.
Damien ?
Oui, j'ai envie d'aussi ajouter que, En fait, ce n'est pas juste du transfert de temps. C'est pas, par exemple, moi, je prends 8 heures à faire ma compta par mois. Je ne vais pas juste économiser 8 heures parce qu'une personne va faire la compta. Il y a aussi un côté augmenté, puisque pour moi, les bonnes assistantes virtuelles aujourd'hui, ou les bons assistants, puisqu'il y a aussi des hommes qui font le travail, sont aussi très alertes sur les nouveaux outils digitaux. Bien sûr, l'intelligence artificielle, bien sûr, la partie pratique agile de l'entreprise, la partie scrum mastering, gestion de projet. Tout ça, bien sûr, même les assistantes virtuelles ou les assistants virtuels sont capables de mettre en place des choses pour des gains de productivité quand même très, très importants. Et pas juste du transfert de temps. Et ça, c'est important parce que pour une petite entreprise qui n'est pas digitalisée, je pense à un artisan, je pense à des boîtes qui sont encore au post-it, quoi, quelque part. Et il y en a beaucoup, hein, faut pas les oublier. 42% des boîtes aujourd'hui. Et ben eux, le fait d'avoir une assistante virtuelle compétente peut être le premier pas vers la digitalisation de l'entreprise.
Ouais, ça apporte effectivement du plus. Au-delà de libérer du temps, on découvre des nouvelles méthodes de travail.
Absolument.
Donc c'est vraiment de l'expertise qui vient accompagner l'entrepreneur, l'indépendant ou la TPE-PME. T'as combien aujourd'hui, Margot, toi, d'assistants? Je t'imagine comme une grande femme d'affaires, une horde avec d'assistants.
J'ai eu l'image à ton service. Moi, j'ai une OBM et j'ai trois assistantes.
Pas mal.
Voilà. Oui, c'est très bien.
Et assistante virtuelle. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tout mon business est virtuel, donc 100% virtuel.
T'as aucun salarié ?
Non, j'ai que des profils freelance, justement. Mais
c'est pour ça que le côté assistante virtuelle et OBM, il y a encore quelques années, ça aurait paru un peu lunaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus évident parce que on travaille beaucoup en coopération entre freelance. Moi, je le dis souvent, je dis, c'est les nouveaux entrepreneurs, c'est les indépendants, c'est ceux qui veulent pas salarier, qui veulent pas manager et qui travaillent entre freelance.
Oui, c'est exactement ça. Typiquement, moi, j'ai le profil, c'est-à-dire que j'ai rien contre le salariat, mais j'aime mon indépendance. Et typiquement, on pourrait très bien recruter. Ce métier, il existe en tant que salarié. Ouais. On peut être assistante. Ouais. Mais ce qui est beau aussi dans la fonction indépendante, c'est qu'on peut bouger quand on veut. On peut avoir plusieurs clients. C'est autre chose. Et même travailler avec des entrepreneurs comme ça, je trouve que c'est encore plus...
Le goût de l'entrepreneuriat.
Oui, c'est plus considéré. J'ai l'impression que mon travail, il est plus valorisé auprès des entrepreneurs quand je suis freelance que quand je voyais des assistantes de direction ou des directeurs des opérations en tant que salarié. Je trouve que là, l'investissement, il est plus... laisse rebondir, Margot.
Je pense qu'il y a une hiérarchie différente entre salarié et chef d'entreprise et entre freelance. Enfin, moi, je sais qu'il n'y a pas de sensation de... c'est plus de la collaboration que de donner des ordres ou d'être vraiment au-dessus. Et je pense qu'on laisse beaucoup plus les freelances vivre et s'organiser comme ils veulent et être libres et aussi développer leur propre business de leur côté. Parce que moi, typiquement, toutes mes freelances, elles travaillent peut-être 10 heures, 15 heures par semaine pour moi, et le reste du temps, elles ont d'autres clients, ou alors elles ont d'autres projets, elles lancent des formations, elles lancent des trucs à côté, et du coup tu laisses à tout le monde l'opportunité d'être libre et de développer ses propres projets, donc en fait tout le monde est content.
Et attention, sujet brûlant, parce que est-ce que l'indépendant est plus impliqué que le salarié? C'est un peu ça l'idée.
Pour moi, oui.
Ouais, moi aussi.
Moi, de fou.
Ouais. 100%.
Parce que
ça n'a rien à voir.
Je pense que juste, ils ont la culture, enfin, ils ont la valeur entrepreneuriale. Exactement. Et du coup, ils ont la valeur d'autonomie, de prise d'initiative, de prise de risque, de responsabilité.
Et ils savent qu'on ne peut pas se planter quand on est...
C'est ça. Bien et il n'y a pas de contrat aussi.
Damien ?
Il faut donner un chiffre extrêmement clair. Aujourd'hui, 92% des salariés disent manquer de sens dans leur travail. 92%. Le Covid est passé par là, bien évidemment, a fait des ravages. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Tandis que quand on choisit ce métier, quand on se développe tous les jours avec des nouvelles compétences sur ce métier, quand on choisit ses clients pour ce métier, on arrive dans une proposition de valeur qu'on apporte par rapport à un problème qui est juste fondamental. On arrive, on sait qu'on va kiffer en fait. Hein,
ouais.
Et donc on donne le maximum.
Vous êtes en train de dire du coup que c'est un petit peu le modèle de demain parce que finalement, il y a moins de sécurité, il n'y a pas la sécurité de l'emploi, mais tout le monde y gagne. C'est-à-dire que tout le monde s'épanouit beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens. Si ça n'a plus de sens, on part, on change, etc. Donc au final, le salariat c'est fini, c'est un autre sujet, mais pourquoi pas? Le salariat c'est fini demain ?
Peut-être pas fini, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui valorisent beaucoup plus la sécurité que la liberté, typiquement. Moi, je pense à mes parents qui sont fonctionnaires. Ma mère, jamais tu la mets dans un emploi où qui peut se finir du jour au lendemain. Tu vois, elle dormirait mal la nuit, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui valorisent beaucoup plus la sécurité. Après, je pense que ça va se développer de plus en plus, parce qu'on est quand même dans une mouvance où on entend beaucoup plus qu'il faut aimer son travail, il faut être libre, on peut voyager en même temps, on peut gagner sa vie depuis partout. C'est quand même un style de vie qui donne envie et qui attire. Donc, oui, je pense.
Marielle ?
Il existe deux profils d'entrepreneurs, les intégrateurs et les visionnaires. Derrière Steve Jobs, il y a quelqu'un. Derrière Walt Disney, il y a quelqu'un. Mais ces personnes ne sont pas forcément mises en avant. Pourtant, ils existent. C'est juste qu'on va avoir les entrepreneurs visionnaires qui vont être souvent en tête d'affiche, ceux qui ont plein d'idées, ceux qui ont vraiment le stéréotype de l'entrepreneur. À côté, on va avoir l'entrepreneur qui est intégrateur, qui lui va plus avoir envie de structurer l'interne, va avoir envie de manager, c'est-à-dire qu'il va prendre la vision du visionnaire. Moi, quand tu me parles d'une idée, dans ma tête, j'ai pas l'idée, j'ai le plan d'action, j'ai les ressources à allouer, j'ai les deadlines, j'ai la gestion des risques, et je suis câblée comme ça. Et justement, et du coup, quand il y en a deux, quand le visionnaire rencontre l'intégrateur,
ça match.
Ça fait des trucs comme Apple, comme toutes les grandes boîtes qu'on voit, quoi.
Et donc, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'avoir effectivement le bon OBM qui va être soit l'intégrateur, soit le visionnaire. J'imagine que les clients, c'est plus à la base des visionnaires pour le coup.
Je pense qu'en fait, les profils effectivement intégrateurs peuvent compléter des profils visionnaires. En fait, c'est le duo dont on parle souvent. Simplement, j'ai envie vraiment de rapporter une information, c'est que c'est pas que pour des solopreneurs l'OBM. Ça va être aussi pour des petites équipes de TPE, de PME. Et en fait, parfois, il y a déjà des intégrateurs dans les PME, des gens qui sont chefs de projet, mais à qui il manque une compétence. Ça peut être un manque de leadership, un manque de connaissance des outils. Et ça, c'est très important. Les nouveaux outils, l'IA notamment, mais pas que. Et en fait, l'OBM va venir avec toute sa proposition de valeur. Son thinking, son mindset, ses compétences organisationnelles et coordination, mais aussi ses outils. Et ça, c'est hyper important.
J'ai demandé tout à l'heure à Betty quelles étaient les compétences de l'assistante virtuelle, mais j'ai oublié de demander quelles étaient les compétences, les qualités, les soft skills, les hard skills de l'OBM idéal. Marielle ?
Ici, on parle de hard skills, je dirais la gestion de projet. C'est un peu le basique, parce que comme il y a de la coordination, de la planification, etc.
Donc bien organisé.
Voilà, il faut être organisé, structuré. Si tu es une OBM et que tu pars dans tous les sens, je ne sais pas quelle valeur ajoutée tu apportes à ton client, vraiment. Donc c'est important d'être quelqu'un qui est capable de prendre des idées et de les transformer en quelque chose de clair, que ce soit des plannings, que ce soit des process, etc. Mais après, il y a beaucoup de soft skills en tant qu'OBM. Parce que, par exemple, il faut être capable d'avoir un certain leadership. Parce que quand toi, t'es la visionnaire, quand tu n'es pas là, Méline manage les équipes. Ça veut dire qu'elle doit pouvoir aussi avoir cette part de visionnaire, mais en interne. C'est-à-dire que Margot, elle shine à l'extérieur, elle lead sa communauté, etc. Mais Méline, c'est la visionnaire de l'intérieur. C'est elle qui va connecter l'équipe à la vision qui va... Et ça, c'est un leadership qui n'est pas forcément naturel, mais qui se travaille.
Il y a aussi un soft skill de ouf, c'est le côté savoir gérer la pression et gérer le stress. Ah oui. Parce que ça, on pense que c'est aussi relatif aux entrepreneurs visionnaires qui lead le truc. Alors qu'en fait, moi, je sais que je remets énormément de charge mentale sur Méline. Du coup. Et tu dois être capable, je pense, en tant qu'OBM, d'absorber beaucoup de charge mentale. Ouais. Certes, ce n'est pas ton business, mais c'est quand même toi qui es la deuxième actrice principale du business. Et en fait, si tu n'es pas capable de supporter la charge mentale, ça va être compliqué de mener un business, surtout quand c'est un business qui est en croissance, qui va vite, tout peut partir dans tous les sens.
Il nous reste une minute pour conclure, une minute pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Margot ?
Moi, franchement, pour les entrepreneurs débordés, plutôt du coup, faites rapidement un petit point sur ce qui vous prend du temps, ce que vous n'aimez pas faire, et faites un premier pas dans la délégation en prenant, par exemple, une assistante virtuelle pour mettre un premier pied dedans. Et puis, petit à petit, faites évoluer votre entreprise comme ça, quoi.
Damien ?
Moi, je dirais, osons être ambitieux. Osons être ambitieux ensemble, puisque avoir un OBM, c'est aussi accepter de redevenir ambitieux, de vouloir vraiment réserver son temps de cerveau quelque part en tant que dirigeant sur des choses qui le concernent directement.
Là où on est bon, quoi.
Là où vous êtes bon, les prises de parole, la vision, justement. Et accepter aussi que quelqu'un vous aide là-dessus pour vraiment aller matcher des résultats que vous n'avez pas encore trouvés, globalement.
Marielle ?
Mon dernier mot serait surtout pour des assistantes virtuelles, des freelances, peu importe les fonctions, qui sentent qu'ils ont une appétence, un certain leadership, qu'ils ont envie de mettre à disposition des entrepreneurs pour proposer des prestations de services un peu plus variées et soulager les entrepreneurs sur d'autres niveaux d'action. Pensez au métier d'OBM, il est en plein essor et n'hésitez pas à vous renseigner, quoi.
Betty ?
Alors moi, du coup, je vais prêcher sur les assistantes, mais en fait, quand tu as un assistant, c'est comme si en fait, tu devenais un chef d'orchestre. Donc, c'est-à-dire que tu deviens un chef d'orchestre, mais si tu n'as pas les bons musiciens, il n'y a pas de musique. Donc, à un moment donné, quand tu as les bons assistants avec toi, qui vont bien tout gérer et que tu n'as plus cette charge mentale, tu peux aller
bien plus loin. Ouais. Betty qui adore les métaphores.
Ouais.
C'est éloquent, les images sont très claires. Merci à tous les quatre. C'est la fin de l'épisode 10 de la saison 3 du podcast des indépendants sur BFM Business. Merci de l'avoir écouté ou de l'avoir regardé. On se retrouve, je vous rappelle, un mercredi sur deux avec un nouvel épisode. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.